Bonjour à toutes et tous, curieuses et curieux, questionneurs et sceptiques, les vrais. Les faux restent aux toilettes. Vous qui faites parler les esprits, surtout quand ils sont critiques, bonjour et bienvenue. Vous écoutez l'onde zététique de ce jeudi 27 novembre. Aujourd'hui, on ouvre cette onde avec une anagramme qui peut nous faire réfléchir, même si l'anagramme en elle-même est un jeu de lettres qui flirte peut-être un peu avec la cabale et nous pousse à trouver encore et toujours du sens partout. Je vous la soumets. Le poids de notre certitude donne le décor de notre stupidité. Cet anagramme d'Olivier Garcia pour introduire notre sujet du jour à l'occasion d'expositions et d'ateliers proposés ce mois-ci et le mois prochain par la médiathèque intercommunale du bassin d'Aubenas autour des médias et de l'esprit critique. Et notamment une rencontre-conversation avec Christian Detty qui est directeur des ateliers Canopée de la Drôme et de l'Ardèche et qui propose samedi 6 décembre à la médiathèque de réveiller notre esprit critique à l'heure de la surinformation massive. Il est avec nous pour en parler, mais d'abord la bise à Sylvain.
Bisous, bonjour.
Oui, qui ne cesse lui aussi d'interroger sa montre pour savoir si nous sommes dans les temps. Et bien sûr, l'agenda. Et dans cet agenda, oui, c'est bizarre, dans cet agenda, nous allons interroger les esprits, d'abord ceux de nos aïeux, puisque ce soir, Patricia Alliot joue « Autoportrait à ma grand-mère », une pièce qu'elle a écrite et mise en scène et qu'elle propose à Alba la Romaine dans le cadre de l'itinérance de la Comédie de Valence. Pendant des années, elle a enregistré ses conversations avec sa grand-mère, née dans une famille bretonnante de Morbihan en 1920. Seule sur scène, elle fait dialoguer archives sonores et photographies avec ses réflexions intimes. C'est ce soir à 20h à la salle polyvalente d'Alba la Romaine. Ça dure une petite heure et demie et ça coûte 15 euros. On questionne notre esprit de stratège et éventuellement de mauvais perdant au Sandinista de Rosières ce soir, puisqu'ils organisent un tournoi d'échecs ouvert aux débutants comme aux génies autoproclamé, attention au biais de confiance excessive. Ça commence à 20h, l'inscription est à 5 euros et on peut en gagner 50 en bons au bar. On interroge aussi notre esprit critique face aux injustices. Ils sont 23 800 en Drôme et en Ardèche à dépendre des denrées collectées par la Banque alimentaire. Et la collecte nationale, comme chaque année, se fait dans la plupart des magasins partout en France, partout en Ardèche, donc le dernier week-end de novembre, soit ce week-end. Ça commence vendredi 28, et ça se termine dimanche. Les bénévoles vous attendent avec votre paquet de pâtes ou de lentilles, si possible de bonne qualité, pourquoi les pauvres mangeraient de la merde, un peu partout dans les magasins du coin. Sylvain, tu veux ajouter quelque chose ?
C'est qui organise ça ?
Ben, c'est la collecte nationale de la Banque alimentaire.
Merci.
Merci pour ta vigilance. On exerce enfin et toujours son esprit critique demain soir au Bourneau avec Catherine Wittold-Wenden, qui est directrice de recherche émérite au CNRS et docteur d'État en sciences politiques, qui est spécialiste des migrations internationales et qui vient questionner justement nos préjugés. Alors qu'on est envahi par des discours alarmistes selon lesquels il y aurait une submersion migratoire, elle remet les chiffres en perspective et elle redonne leur place aux faits et pas aux ressentis. La proportion d'immigrés en France est assez stable, autour de 10,7% de la population, là où la moyenne européenne se situe à 10%. Pendant cette conférence, donc, elle va poser d'autres questions, d'autres enjeux, pour avoir ensemble un débat éclairé et constructif. C'est une conférence qui se tient dans le cadre du festival Images et Paroles d'Afrique, en partenariat avec le MRAP. Demain, donc, à 18h, au Centre Le Bourneau, l'entrée est gratuite, bien sûr, et la soirée se poursuit sur scène avec, à 20h45, la chanteuse Bongui, qui est autrice et interprète d'une musique afro-pop. Là, c'est pas gratuit, c'est les tarifs habituels du Bourneau, c'est-à-dire 8, 10, 12 euros, c'est ça. Vous l'aurez compris, donc, vigilance quand on vous tend sur un plateau maintes fois resservi un discours alarmiste fondé sur une cause unique. La France aurait-elle peur ?
flic a bien sapé. Il m'a dit que ça craint, que dehors, faut pas y aller, que si je veux me sentir bien, et puis pour ma sécurité, alors je dois rester chez moi. Aujourd'hui, j'ai pas le choix. Bon bah je me dis qu'il fait froid. Il a peut-être raison, il a l'air tellement sérieux sous ses allures de pauvre con. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle. Bonsoir, comment ça? Ensuite ils font parler un type qui a pas l'air de manquer de fric. Il me dit que si je veux respirer, ben c'est pour lui qu'il faut voter. Prendre ma carte du parti, lui filer quelques billets. Il me dit que si l'air est pollué, si les Français sont stressés, c'est la faute des immigrés, des clochards et des PD. Pareil. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle. Tous les soirs à 20h. Alors écoute bien mon petit gars, toi qui trône à la télé. Si un jour tu crèves de froid chez moi, faudra pas venir sonner. Et puis si un jour par malheur les rapaces prennent le pouvoir, dis-toi bien que ça sera pas la faute à tous les gens qui broient du noir. De toute façon, ne t'en fais pas, ils auront sûrement quelque part une jolie petite place pour toi. T'auras bien fait ton cinéma, t'auras bien fait ton cinéma. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle, tous les soirs à 20h. La France a peur, tous les soirs à 20h. La police vous parle.
Et bonjour.
Tous les soirs à 20h.
Bonsoir, alors là c'est PPDS. Je vais raconter des petites histoires drôles. Alors vous voyez au Soudan, il y a eu 2660 bureaux de mort. Non, on n'a rien à prendre du Soudan. Parce que tu vois, il y a Charmaine, elle s'est coupé le doigt. Et ça fait vachement mal de se couper le doigt. Et à Marseille, il fait des chaussures en bois. Je reste mon chéri, les chaussures en bois. Alors tu vois, les mecs, ils sont super loin, mais t'as rien à prendre. Mais alors rien du tout, parce que c'est super bon, les chaussures en bois. Alors t'as rien à foutre.
La France a peur. Mickey 3D, c'est issu du... de l'album Mystigri Torture. Oui, je regarde mes notes. Mystigri Torture, c'est en 99, il y a 26 ans, et je suis sidéré par l'actualité des propos. C'est toujours de la faute des immigrés et des PD, même si c'était une autre époque, l'heure à laquelle on était tous rivés aux 20h face à sa télé. Une autre époque, mais les questions sont toujours les mêmes. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les médias? Nous manipule-t-il? De qui parle-t-on? De quels médias? Comment exercer son muscle critique? Question d'autant plus fondamentale que des élections approchent et que je ne résiste pas à la tentation de vous soumettre une autre anagramme. La crédulité de masse donne maladie d'électeur. Confiance, crédulité, esprit critique, on en parle aujourd'hui à l'occasion d'événements proposés ce mois-ci et le mois prochain par et à la médiathèque intercommunale du bassin d'Aubenas, autour des médias et de l'autodéfense intellectuelle, et notamment à travers une rencontre, une conversation avec Christian Dety, directeur des ateliers Canopée de la Drôme et de l'Ardèche, qui propose samedi prochain, samedi 6 décembre, à la médiathèque, donc de réveiller notre esprit critique à l'heure de la surinformation massive. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là parmi nous. Alors, pour commencer cet entretien, je fais appel à l'actualité chaude, à travers le Dauphiné libéré d'hier, puisque est sorti un dossier où l'on apprend que l'ONG Reporters sans frontières révèle l'existence d'une dizaine de faux sites générés par l'IA, copiant l'apparence des médias de la presse régionale française, type Sud-Ouest Direct, Écho Rhône-Alpes, ça c'est les noms des faux sites. 141 précisément ont été dénombrés entre janvier et juin de cette année. Il y en a 85 qui sont toujours en activité. La tendance s'accélère à l'approche des municipales de mars. Rien qu'en un mois, là, il y a eu plus de 5000 faux articles donc générés par ces faux sites qui diffusent donc des infos erronées et utilisent souvent un narratif pro-Kremlin, ce qui a été démontré. Le groupe de recherche américain INSICT est remonté jusqu'à un réseau d'influence russe intitulé CopyCop, plus connu sous le nom Storm 1516. Ça fiche un peu les chocottes. L'idée, c'est d'inonder le web de contenus faux, mensongers, qui sont eux-mêmes repris par les algorithmes des réseaux sociaux et des IA conversationnelles, et qui amplifient comme ça la portée de l'espace numérique. Alors le but est double, c'est à la fois déverser, je l'ai dit, le narratif de Moscou auprès des citoyens européens, et puis surtout de semer le doute envers les médias et de fausser l'accès à l'information fiable, d'autant plus avant les élections municipales de 2026. Voilà, c'était hier dans le Dauphiné libéré. Un cas concret qui va peut-être nourrir notre conversation, c'est assez vertigineux. On se demandera donc dans cet écosystème là comment on fait, comment on survit, comment on surnage, comment on fait pour savoir si telle ou telle information est fiable ou pas. Alors avant de commencer et de répondre à ces questions, juste Christian Dety, j'ai dit que vous étiez directeur des ateliers Canopée en Drôme et en Ardèche. Canopée, le réseau Canopée, qu'est-ce que c'est ?
Alors Réseau Canopée, hein, donc c'est un opérateur public hein, sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Et notre mission prioritaire, hein, c'est la formation des enseignants, on va dire, de tous les personnels de l'écosystème éducatif. Et je dirais comme mission secondaire, c'est aussi d'accompagner les politiques éducatives au sens large. Et c'est dans ce cadre-là qu'une médiathèque nous interroge, nous demande c'est ce que nous pouvons mettre en place, on va dire, une conversation interactive, hein, comme on l'a appelé pour la médiathèque d'Aubenas. Voilà, c'est dans ce cadre-là où nous remplissons notre mission aussi.
Donc une conversation interactive, enfin une conversation n'est-elle pas interactive d'ailleurs ?
Eh bien justement, c'était en tout cas selon le nombre d'auditeurs, de participants, hein, en tout cas, l'idée c'était quand même de faire interagir, si ce n'est de répondre à des questions lors de cette grosse heure, je dirais, autour de l'esprit critique, mais en tout cas de stimuler, je dirais, la réflexion et d'interroger, et tous les auditeurs, disons les participants, pourront se demander « Ah tiens, là, j'aurais peut-être plutôt pensé à ça, ou j'aurais réfléchi comme ça, ou j'aurais réagi comme ça. » Donc c'est le côté interactif, en tout cas cérébral.
Donc on rappelle, ce sera samedi 6 décembre à 15h, donc on parle d'esprit critique. Est-ce qu'il ne serait pas utile de dire ce qu'est, d'après vous, l'esprit critique ?
Alors, c'est souvent, hein, ça commence comme ça, et d'ailleurs, c'est une expression qui est très usitée en ce moment. Tout le monde parle d'esprit critique, et donc c'est vrai qu'il est nécessaire un peu, si ce n'est clarifier ou de donner une définition. Mais en tout cas, dans l'esprit critique, il y a, je dirais, deux choses. Hein. Il y a esprit, hein, quand même, qui est fondamental, c'est-à-dire que c'est un acte de réflexion. C'est un exercice mental vraiment du cerveau. Il faut faire travailler son cerveau. Travailler son cerveau, voilà. Et dans le critique, aussi, il faut le lire comme, avec l'expression de Michel Serres, hein, c'est un ami critique. Hein, donc, on n'est pas là pour critiquer tout le monde tout le temps, partout, mais c'est de pouvoir, au sein même de ses propres pensées, je dirais, activer son ami critique qui va pouvoir stimuler cette réflexion et de savoir comment prendre en compte ou pas une assertion, un énoncé. Mmh. C'est la communication, hein, vous parliez de ça, quelle était l'importance en fait de la de la valeur et surtout de la confiance. Hein. On va évaluer la confiance que l'on a dans des propos qui sont tenus par des médias, ou des entreprises. Hein.
Alors, on va y venir, mais là, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que donc il faut pas tout mélanger. Être critique à propos de tout et n'importe comment, c'est pas ça, avoir de l'esprit critique. C'est une question de jauge, de jusqu'où on peut aller, et surtout, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que c'est avant tout sur soi-même. C'est-à-dire, on fait appel, on se questionne soi-même, et on se remet en question, avant tout.
Oui, tout à fait, c'est établir un dialogue avec soi-même pour évaluer justement le degré de confiance qu'on peut faire dans un propos, dans une assertion. Hein. Mais après, voilà, ça permet déjà d'avancer et puis après d'établir une conversation, mais une véritable conversation et pas simplement, je dirais, des monologues alternés où chacun exprime sa vérité, mais justement d'établir une véritable conversation. Là, vous voyez, on se rapproche un petit peu de la philosophie, mais c'est bien ça, l'idée d'établir un véritable dialogue où on entend les arguments de l'autre, de l'un, on les prend en compte et on améliore. Dans l'esprit critique, il y a aussi vraiment cette dimension vraiment de réflexion, de travail, de connaissance, de méthode. C'est un exercice qui se travaille avec des spécificités et quel que soit son niveau. Des tout petits enfants évaluent tout le temps, ils le font très très bien, il y a des recherches scientifiques qui travaillent parce que c'est un facteur vraiment déterminant de notre survie, je dirais, dans le monde social dans lequel l'espèce humaine vit.
Qu'est-ce qui est un facteur dominant ?
En tout cas, la capacité à évaluer la pertinence d'une situation de propos. À qui on fait confiance ?
Donc, en fait, on est tous, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'on est tous aptes, on est tous capables, effectivement, de faire preuve d'esprit critique. Encore faut-il faire des efforts pour y parvenir et avoir des bons outils et ne pas s'arrêter en route. Parce que, je suis justement dans ce cheminement, dans cette démarche critique, il y a effectivement une mise en question, une mise en cause, on se pose une question, éventuellement on va gratter un petit peu, on va chercher, et souvent ce qui arrive, c'est que dès qu'on trouve une première explication qui nous convient, on s'arrête là. Parce que c'est confortable et parce que c'est plutôt chouette. Alors que l'esprit critique, c'est aussi d'aller, de continuer, de poursuivre son chemin. Et quelquefois, on arrive à des conclusions qui nous font pas plaisir, tout simplement. Non. Est-ce que c'est pas pour ça aussi que tout le monde n'y va pas ? Enfin, je veux dire, on a tous l'impression de faire le premier pas, on va critiquer, mais pas le deuxième ou le troisième ou le quatrième pas, c'est-à-dire qu'on s'arrête tout de suite dès que, on nous sert une explication qui va dans notre sens ou qui nous conforte. Ça fait...
Alors, tout à fait. Hein. Alors déjà, ce qui est très important, hein, c'est de dire que il n'y a pas de nécessité d'avoir fait des études ou d'être d'un certain milieu ou d'être d'une certaine autorité quelque part. Tout le monde peut travailler son esprit critique. Et d'ailleurs, le fait, d'une façon, dans notre société actuelle, tout le monde est très conscient de la publicité. Et on ne lit pas les publicités au premier degré. Et tout le monde sait que c'est de la publicité. Alors, on est plus ou moins... Et d'ailleurs, ça se voit assez bien, parce que pour avoir travaillé beaucoup ça, moi, j'étais enseignant et travaillé ça avec des élèves, mais on fait ça avec des jeunes. On sait très bien, ah oui, ça c'est une bonne publicité, ou ça c'est impactant, ou en tout cas ça nous a stimulé. Donc on a tous cette capacité à pouvoir à développer l'esprit critique. Après, oui, ça demande un effort, mais c'est un effort qui ne doit pas être trop important. C'est-à-dire, chacun à son niveau va faire l'effort nécessaire, et il va développer des compétences, et ça a un avantage, c'est un exercice d'assouplissement intellectuel. Donc il faut le faire tous les jours, n'importe quel propos. Ce n'est pas parce qu'on a développé des compétences en esprit critique de très haut niveau, je dirais, à 20 ans, parce qu'on a fait une grande école ou je ne sais quoi, qu'on continue à avoir l'esprit critique. Pas du tout. On peut se rédifier fortement, je dirais. Et donc, c'est tous les jours, quel que soit son niveau, c'est une attitude. Hein. Vous parliez très souvent de capable de se remettre en cause, en travaillant, on s'aperçoit que, ah oui, c'est pas tout à fait dans ce que je pensais au départ, capacité à se remettre en cause. Et très souvent, on dit, non, faut pas sortir de sa zone de confort, faut agrandir sa zone de confort, c'est-à-dire de pouvoir prendre d'autres points de vue en cause dans sa réflexion globale. Ce qui n'empêche pas, in fine, de pouvoir émettre un avis argumenté qui exprime, je dirais, sa personnalité, sa vision d'un problème, et d'en être conscient. Mmh. Voilà, c'est très souvent ce que je montre dans ces conversations, c'est que c'est bien l'expression d'un point de vue que l'on construit.
Alors, vous donniez tout à l'heure l'exemple de la publicité. On est bien conscient que c'est de la publicité. Étant bien conscient de ça, ça ne nous empêche pas de plonger dans le machin et d'acheter le produit en pensant, mais sans vraiment y penser. On sait que c'est de la pub, mais en même temps, on va quand même acheter le produit. Ce qui veut dire que quoi ? Le fait de savoir qu'une information n'est pas vraie n'immunise pas contre le fait d'adhérer.
Alors, d'adhérer, c'est encore une chose, mais en tout cas, ce qui est vrai, et c'était une des recherches scientifiques, hein, ont montré, ce qui est assez paradoxal en tout cas, c'est de connaître ses propres biais, ne les supprime pas. Simplement, c'est oui, je sais que je suis influencé par une publicité, par une marque pour acheter ce produit-là, j'en suis bien conscient, et pourtant je le fais. Mais au moins, je suis conscient de l'avoir fait, en étant avec un regard biaisé, en tout cas particulier. Et c'est souvent, moi je présenterai un petit peu ça, parce qu'il y a des biais quand même très marqués, hein, l'affectif, ce genre de choses, et donc qui est très très fort, et dans une société actuelle où, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui pourrait toucher votre affect est preuve de vérité.
Mais voilà, ouais. Allez-y, vous pouvez, c'est le moment de nous dire, de rappeler ce que sont les biais cognitifs, et peut-être d'en sortir un ou deux qui vous paraissent justement vraiment intéressants.
Pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire que l'affectif et la proximité culturelle, on est très sujet à ça. C'est pour ça que...
C'est-à-dire
on va toujours tendance à plutôt à répondre favorablement à à valider, je dirais, voilà, un message par quelqu'un qui est proche culturellement. Et d'ailleurs, en politique, hein, vous le donniez dans votre exemple, moi je parle du terroir, je viens de ce territoire-là, moi je connais la vérité et je peux vous dire la vérité. Voilà, c'est ce genre de choses. Et on pourrait faire une référence, hein, très souvent, moi je la donne, hein, relisez Le Petit Prince, hein, parce que nous avons exactement ça avec le professeur d'astrophysique qui n'est pas cru parce que il n'est pas habillé avec un costard cravate. Voilà. Donc c'est sur les émotions et la proximité, je dirais, culturelle est très forte. Et c'est aussi ce qu'on mettait en avant, c'est-à-dire le côté, non, c'est le refus d'accepter le point de vue de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'adopter, mais en tout cas, l'écouter, le regarder, accepter les autres arguments. Et puis la plus grosse, je dirais, ce qu'on voit le plus gros biais, hein, qui est vraiment ennuyant, c'est ne pas faire la différence entre corrélation et causalité. Hein, et ça, c'est un élément absolument essentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a des phénomènes qui paraissent vraiment corrélés qu'ils ont un lien de causalité.
Par exemple, pendant l'été, on peut voir qu'il y a une augmentation exponentielle de la vente de glace et des accidents en yacht. Et pourtant, il n'y a aucun lien de cause à effet entre le fait de manger une glace et d'avoir un accident en yacht.
Par exemple.
Voilà,
exemple.
Différence entre la cause à effet, l'effet de cause à effet et juste la corrélation.
Oui, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment une des choses très importantes et sur les... L'importance avec l'esprit critique, c'est si on veut le développer, si on veut le travailler, donc travailler un peu tous les jours, quel que soit son niveau, c'est très important et ça demande aussi une méthode et une approche, je dirais, oui, il faut être capable de remettre en... de challenger, je dirais, en utilisant un mauvais anglicisme, ses propres convictions en allant écouter un autre point de vue. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Mais c'est le principe même de l'esprit critique, qui est de faire progresser, de faire évoluer, je dirais, d'éclairer, en tout cas, son chemin pour avoir une réflexion et pouvoir être un acteur de sa vie.
Parce que
politique, économique, sociale, le but c'est ça.
Exactement. Le but c'est d'être libre. ou en tout cas de connaître nos influences et d'en être bien conscient et d'agir en conséquence, mais de ne pas se faire berner ou par d'autres.
En tout cas, c'est vraiment un projet politique qu'on ne se rend pas compte au sein de la République française. Dans notre pays, que l'esprit critique, ce n'est pas développé dans tous les pays du monde. Parfois, on ne veut pas qu'il y ait des remises en cause de discours dominants ou institutionnels.
Au sein de l'éducation nationale, c'est ce que vous disiez.
Au sein
de la République.
Au sein de la République, c'est-à-dire qu'en France, on fait la promotion partout. Vous avez, et d'ailleurs, l'exemple, cette conversation que nous avons ici et que j'aurai donc le 6 décembre. Ça veut dire qu'on veut travailler ça avec les citoyens, avec tous les acteurs, je dirais, de la vie sociale. Et donc c'est quelque chose de très important et c'est la condition pour être libre. Et si on veut être libre, eh bien il faut continuer à travailler son esprit critique, s'entraîner, poursuivre cet exercice quasi quotidien sur quelles que soient les formes de discours.
Mais ce que vous venez de dire sur le lien entre la République aujourd'hui qui souhaite développer l'esprit critique, ça peut en faire coincer. J'ai 1000 exemples en tête de personnes qui diraient mais non, l'État veut nous faire taire ou voilà. Vous dites eh bien non, preuve en est, c'est ça.
Moi j'ai des exemples en tout cas très parfaits parce que le réseau Canopé, je dirais vraiment, a produit des ressources qui sont accessibles à tout le monde, plutôt, je dirais, pour le monde éducatif, mais autour des valeurs de la République et dedans, spécialement sur l'esprit critique, c'est mis à disposition et donc c'est quand même une preuve véritable de travail de la République, avec de l'argent public d'ailleurs. Nous sommes un opérateur public pour faire, parce que c'est le but de la République, de faire des citoyens éclairés si on veut pouvoir... voter en toute liberté, exprimer sa liberté, quelle qu'elle soit. Je parle bien politique, économique et sociale. Il faut travailler son esprit critique.
Alors, c'est bientôt la fin de cette émission, mais ça m'embête un peu parce qu'on n'a pas répondu à la question que j'ai lancée. C'est comment on fait, là, par exemple, quand on a plein d'informations pour savoir comment jauger là en quelques secondes où vous allez me dire allez me voir le 6 décembre.
Oui, certainement, mais j'aurais pas plus la réponse parce que c'est pas en quelques secondes. Mais ce qu'on peut dire quelque chose, c'est que l'esprit critique, c'est évaluer le degré de confiance. Et dans des institutions et dans des médias et ce genre de choses. Et donc ça, c'est essentiel. Et pour rebondir, pour terminer, je dirais sur la fabrication de médias à travers l'intelligence artificielle, c'est tout à fait possible. Maintenant, à qui je vais faire confiance? Et il faut évaluer ce degré de confiance à travers des médias sérieux qui sont engagés, qui sont avec un travail de fond qui se fait.
Et il y a d'ailleurs, RCF plaide pour renforcer la visibilité du journalisme, en particulier sur les réseaux sociaux et dans les outils émergents comme les chatbots, en appelant les entreprises du numérique a intégré la Journalism Trust Initiative, qui s'appelle donc l'acronyme de GTI. C'est une norme internationale pour l'engagement en faveur de la transparence, de l'éthique et de la fiabilité. Donc les journalistes, eux aussi, bien conscients du fait que la majeure partie des actualités qui sont diffusées n'émanent pas d'un travail journalistique, mais émanent de tout à chacun, eh bien, il y a aussi une nécessité de labelliser un petit peu ce que c'est, ce qui se cache derrière un journaliste. Qui est normalement, ça va de soi, il y a une déontologie journalistique, donc de croisement de l'information, croisement des sources, etc. Merci Christian Detille. On vous retrouve donc samedi 6 décembre à 15h à la médiathèque d'Aubenas. Mais avant, je vous disais, la médiathèque, c'est propose plusieurs événements. Donc dès ce samedi, ce sera un atelier sur les réseaux sociaux animé par Mylène Debuchère de votre réseau Canopée. Donc il n'y a pas d'inscription, c'est limité à 15 personnes, mais surtout il y a deux rendez-vous à 14h et 15h30. Donc voilà, on va se questionner sur les réseaux sociaux samedi 28 à la médiathèque. Mercredi 3 décembre, un atelier un peu fun avec adultes, jeunes ados pour remuer quelques mauvais tics comme partager une info, une vidéo sans se soucier du vrai et du faux. Et il y a des affiches donc qui vont être créées autour de ça avec Julie, l'association Le Ressort. Et puis il y a toujours jusque au 24 décembre, deux expositions initiées par le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Deux expositions donc sur les fake news, art, fiction, mensonges et histoire de fausses nouvelles. Et enfin, dans la salle d'expo, évidemment, il y a des livres et des films à emprunter. Et il y a aussi la possibilité de jouer en ligne au jeu Escape Fake, de l'association Report Cité, qui vous plonge dans le rôle d'un journaliste stagiaire et qui doit vérifier les infos, les vidéos qui lui sont soumises avant de les publier. Voilà, je pense avoir tout dit, et donc j'ai débordé de 2 minutes 44. Merci beaucoup d'avoir tenu jusque-là. Merci à vous, merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Vous pouvez continuer d'écouter Fréquence 7, c'est fortement conseillé, ça va vous assouplir votre esprit critique, ça fait partie des petits exercices à faire tous les jours. À 15h, le Telex, donc c'est vos événements en Sud-Ardèche. À 17h, la rediffusion de cette onde curieuse. Et à 20h, la tête dans le sillon, l'émission musicale en trio sur le thème, puisque c'est la rediff, de la bouffe, me semble-t-il, toujours. C'est immanquable quand on parle de bouffe ici en France. Allez, ciao.